Ah bah, encore lui. Très amoureux, parcourt chaque jour 202 km à pied, 101 km à l'aller, 101 km au retour, pour retrouver la belle Anna, qui ne vient jamais à ses rendez-vous. Chaque soir, il rentre chez lui épuisé. Il devrait méditer ce proverbe onirico-palindromique. Rêver, c'est se crever. Rêver, c'est se crever.
Et voilà, ouverture comme à l'accoutumée avec un palindrome de Gérard Durand, le gérant Durard, et on en profite pour signaler que ça y est, mon article 49.3 a voté que la retraite de l'humanité serait à l'âge de 2 543 832 années. Ce qui veut dire que, à cet âge-là, l'être humain disparaîtra de la surface de la Terre, ce qui nous laisse quand même quelques siècles devant nous. Cela dit, mon conseil constitutionnel vient de constater que ceci n'incluait pas les années bissextiles, c'est donc que l'être humain s'est éteint il y a maintenant 3000 ans. Donc nous tournons la page et on se couche, on retourne tous se coucher, c'est fini. Si c'est dans les textes, c'est que c'est comme ça, l'être humain a disparu de la Terre. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits « je me souviens ». Je me souviens des vins du Postillon, pas folle la guêpe, de Gévéor, le vin qu'on aime, du Kiravi et du vin des Rochers. J'en ai gardé les publicités dans les yeux ou les oreilles, mais je n'y ai jamais goûté. Ah si, sauf peut-être à la pizzeria de mon travail dans les années 80 à 3 francs le verre. Je me souviens de Brasse-Bouillon et Folcoche dans Vipère au Point d'Hervé Bazin. Sur la couverture en livre de poche, j'avais peur de la vipère qui s'enroulait entre les lettres du titre. Je me souviens que ma sœur pleurait toujours en me lisant La Chevrette Rose dans la collection des albums du Père Castor. Je me souviens du Tamiflu. Tiens, mais je me souviens pas qu'on m'ait un jour expliqué comment les stocks périmés furent liquidés. Je me souviens que les portions de la vache Grosjean étaient plus difficiles à ouvrir que celles de la vache qui rit, mais c'était celle qu'on avait à la cantine. Je me souviens de l'assaut de la grotte d'Ouvéa en mai 1988. Je me souviens que Claudio avait des flatulences incontrôlées chaque fois qu'il était stressé, ce qui fait que son chef d'atelier a cessé de le convoquer dans ses bureaux quand il arrivait en retard à l'atelier. Je me souviens que c'est Didier qui m'a un jour raconté la blague « Comment se branle Lucien Jeunesse ?»« À demain si vous le voulez bien ». Moi je connaissais Lucien Jeunesse, on avait même un disque de lui qui chantait « Toi qui disais, qui disais ?» Je connaissais sa phrase fétiche de clôture du « Jeu des 1000 francs ». Mais il manquait le verbe « se branler ». Je me souviens que Germaine nous racontait souvent que, pour 3 sous de théâtre et 1 sou de bonbons, elle passait ses dimanches après-midi d'enfant dans l'arrière-salle du Gavroche, rue des Alouettes. Mais au fait, 1 sou, c'est combien ? Je me souviens que le fils de la crémière sur le marché comprenait si on lui demandait 2 demi-douzaines d'œufs. Mais si on lui demandait 1 douzaine, il était obligé de demander le prix à sa mère et de savoir combien de boîtes ça pouvait bien faire. Tiens, je me souviens du scandale de la banderole, pédophile, chômeur, consanguin, pour un match opposant le PSG à l'équipe de Lens. Je me souviens de la basse-côte, du gîte, de la noix, de la macreuse, de la hampe, du flancher. Il y avait chez le boucher, à la place, un panneau semblable aux cartes de géographie du collège par son format, son accrochage et sa légende, et qui transformait la silhouette du bœuf en un puzzle géant. Je me souviens que parmi les États de la Fédération de Russie, tout contre la Chine et le fleuve Amour, il y a l'oblast autonome juif, grand comme l'Auvergne, et guère plus peuplé que le 19e arrondissement de Paris, avec d'ailleurs le même pourcentage de juifs que dans le 19e arrondissement, 1%. Je sais, ça sert à rien de savoir ça, mais ça permet de relancer une conversation moribonde avec des amis, par exemple dans un café du 19e. Je me souviens de remplacer Darmanin par un bouquet de persil sur des affiches du Babelville et aussi remplacer la 5G par le point G, remplacer Zemmour par un ballon d'eau chaude avec une typographie simple et une illustration monochrome. Je me souviens de « on fabrique, on vend, on se paye », le slogan d'Elip quand ils avaient autogéré leur usine de fabrication de montres à Besançon. Je me souviens de Oui Oui, Potiron, Monsieur Wistiti, Monsieur Culbuto et même Nestor Bouboule. Ah tiens, ça doit être à cause de ça que mentalement, je surnomme Nestor Bouboule, le type qui prend souvent le tramway en même temps que nous, le matin, à la porte des Lilas. Je me souviens que l'oisillon du coucou ne connaîtra jamais ses vrais parents. Ça, c'est profond.
Tous les jours, route que route, je vais mon chemin. Je vais à travers gouttes, je suis mon destin. Le jour se lève à peine, et le vent est tombé. La lune un peu hautaine a fini par rentrer. Même quand le soleil a de la peine et qu'il ne veut pas se lever. Je veux me défaire de mes chaînes, je veux tout changer. Pour enfin mieux s'aimer. Chaque jour aller son chemin, chaque jour vivre son destin.
Radio Libertaire 89,4 MHz, destinée une chanson du dernier album en date, et non pas de l'ultime album, hein, de Pascal Loquin, qui sera prochainement notre invité dans le cadre de ce magazine. Et quand je dis prochainement, c'est dans 5 secondes à peu près, le temps que je pousse les potentiomètres des micros.
Ah ben oui, on a commencé par Pascal.
Bonjour.
Bonjour Pascal. Pascal Loquin, les auditeurs connaissent quand même le Radio Libertaire.
Oui, un peu, oui, oui, c'est vrai que je sévis un peu sur les ondes de Radio Libertaire.
Notamment pour l'émission Juste une chanson.
Non, faites-nous des chansons.
Ah, ça a changé, c'est vrai. Plusieurs fois, ça a changé.
Oui, on a fini par trouver notre voix. Donc, c'est Faites-nous des chansons. C'est une chanson d'Anne Sylvestre. Donc, c'était tout à fait légitimé. Parce que c'était quelqu'un qui a compté et qui comptera toujours, Anne Sylvestre. Voilà.
Alors, donc, on est. Pour l'instant, on est quatre dans le studio. Aussi Brigitte Brami.
Oui. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci à toi Evelyne de m'avoir invitée. On s'est connus donc à une émission d'Hélène, Femme Libre. Et c'est vrai que j'ai adoré tes écrits et ta personnalité. Tu as eu la gentillesse de m'inviter suite au, après quand je t'ai montré mon dernier poème de poésie. Est-ce que je peux juste une phrase
dire ?
C'est très important parce que là, on fête le... Enfin, je ne sais pas si on peut fêter. En tout cas, dans la nuit du 14 au 15 avril 1986, mourait le plus grand poète du XXe siècle, c'est-à-dire Jean Genet, dans un petit hôtel du 13e arrondissement. Son corps a été retrouvé par une femme de chambre marocaine. Lui, il habitait le Maroc. Et donc, je tiens à rendre hommage à ce magnifique poète. Et j'ai écrit un livre, « Miracle de Jean Genet », qui était issu de ma thèse de doctorat en littérature et civilisation française, qui parle un peu de la poésie dans l'œuvre de Jean Genet. Donc, je suis ravie que le hasard, au hasard objectif, hasard farceux de l'inconscient, fasce que je suis ici pour parler un petit peu de lui. Voilà.
D'accord. Oui. Moi non plus, je ne savais pas qu'il était décédé un 14 avril, mais...
Dans la nuit du 14 au 15.
Ouais, effectivement.
Ah, maintenant tu le sauras, c'est marqué dans la cire, hein.
Oui, non, mais j'ai lu comment il était mort. Effectivement, il était mort dans une petite chambre d'hôtel complètement dénudée. Enfin, en fait, il s'intéressait pas du tout au matériel.
Pas du tout.
Voilà,
c'était comme les vrais poètes.
Ah. Et alors, un invité surprise dans la mesure où c'est la première fois où tu es à l'antenne, Fabien.
Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Fabien, donc je suis un auditeur de Radio Libertaire. Notamment, j'aime beaucoup certaines émissions, notamment de Sous de Seine. Voilà, et Evelyne a eu la gentillesse de m'inviter, donc je suis très touché et puis très content de voir à l'envers du décor. Et ça me fait bien plaisir parce que de Sous de Seine m'a fait découvrir beaucoup d'artistes, notamment grâce à Patrick Hippert, donc je salue, Alan, donc, je pense qu'il écoute. Donc, là. Et grâce à lui, j'ai découvert beaucoup d'artistes que j'ai pu aller voir en concert à Publico. Puis je suis content, c'est que les concerts reprennent, ça me fait bien plaisir. Puis je voulais saluer aussi Jean-Marie Blanche, hein, que j'apprécie également beaucoup. Voilà, merci à vous.
Mais oui, alors, salut Jean-Marie.
Il y aura un texte de Jean-Marie, de La Lune à la Terre, de Oscar Miloche. Voilà. Mais d'ailleurs, Jean-Marie et Fabien, peut-être... Toi, Fabien, tu as amené un texte d'Isabelle Sprung,
voilà,
c'est bien ça.
Alors, Isabelle Sprung, que j'ai connue aussi grâce à Dessous de Seine.
Voilà. Donc, peut-être que tu feras l'intermède. Alors, puisqu'on a commencé en chanson avec Pascal...
Oui.
on va continuer. Alors, en plus, c'est aussi le hasard des programmations, parce que je me rends compte que j'ai en face de moi... Ah, ça, c'est Sophie... Non, décidément.
il y va.
Donc, j'ai en face de moi deux poètes. Alors, il y en a qui disent poétesse.
Ouais, moi, je préfère poète.
Non, moi, je aussi. Bon, aussi.
Ça fait poéfesse. Bonjour.
Alors, donc, deux poètes. L'une chante.
L'autre pas. Agnès Varda. Ça pourrait être le titre d'un film.
C'est Agnès Varda, par exemple.
Mais, alors, Pascal, on sait qu'elle chante avec beaucoup de force, quand même, hein, d'énergie.
Oui.
Hein,
on
s'y trouve, hein, oui. De l'ampleur. Hein,
je ne suis pas encore morte, donc j'ai encore un peu d'énergie.
Une voix qui monte, qui est... Je sais pas.
Je te laisse te débrouiller.
En tout cas, une voix reconnaissable entre toutes.
Voilà, d'accord.
Voilà. C'est même pas moi qui l'ai dit, c'est un fan de toi qui dit que toi, quand on t'entend, on te reconnaît tout de suite.
D'accord.
Voilà. Et Brigitte, alors j'ai donc dans l'émission de Hélène Irlandaise, je t'ai entendu dire tes poèmes.
Oui.
Les incarner, comme on dit.
Merci.
Voilà.
C'est des poèmes à crier, en fait.
Voilà. Alors, on dit que c'est à crier, mais en même temps, c'est parce que ça peut être péjoratif, hein, le terme crier.
C'est vrai.
Bon, hein. Donc, c'est à crier, mais c'est pas à gueuler.
À déclamer,
voilà. Déclamer, ça fait très.
Non, mais pas du tout à déclamer. Ah, non, ça fait pas du tout à déclamer.
Moi, je me suis trompée, alors désolé.
Tu les as pas encore lus.
Non, voilà, c'est pour ça. Il
faut les lire pour comprendre.
Non, c'est simplement à. À exprimer comment ça vient, ça sort ouais.
Ça vient des tripes, quoi.
Voilà, en exactement.
Fait, ce qui se passe, c'est que justement, parce qu'il y a la petite histoire, c'est que c'est un recueil donc, qui date de 45 ans. J'ai écrit ces poèmes, il y en a même un que j'ai écrit lorsque j'avais l'âge de 7 ans, qui est dédié à mon père qui est décédé depuis. Sinon, les autres poésies, ce sont des poèmes que j'ai écrits entre l'âge de 16 ans et 25 ans. Et ce qui se passe, c'est que je suis allée au festival de poésie de Sète pour la première fois de ma vie. Et par le jeu des hasards et des circonstances, j'ai dû lire un poème avec les autres auteurs de mon éditeur Unicité, François Mocaer. Et alors, de mémoire, j'ai lu Ouvre-moi. Hein, et là, il s'est passé quelque chose avec le public. C'est-à-dire que c'était dehors, c'était l'été, il faisait très chaud. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, une vague comme ça émotionnelle. Et plus tard, mon éditeur m'a dit ce recueil, c'est pas un recueil que un soir d'hiver avec un feu de cheminée, avec un plaid, on va lire de façon bourgeoise. Mais au contraire, c'est un poème qui, comme tu le disais très justement, Evelyne, ces poèmes sont faits pour être incarnés, quoi. Mmh. Moi, je crois en une langue incarnée. Je ne crois pas en une langue qui n'est pas organique, comme celle de Jean Genet, par exemple.
Incarnée, oui.
Oui.
D'accord. On commence par qui, alors?
Comme tu veux. Bah,
hein, elle est partie, vas-y.
Bon, non, mais vas-y. Non, c'est toi qui commences.
On va se faire des politesses.
Non, mais de temps en temps, on fera du ping-pong. On est parti avec toi.
Mais non, Brigitte. On est parti avec elle, hein. Ah, on est parti avec sa musique.
Bon, on ne va pas se fâcher.
Non, mais tu... chacun de vous peut intervenir, hein, y a pas de... Ouais. On va pas faire... Alors, je disais, tu viens aussi pour parler de la sortie de ton disque.
Voilà, qui est sorti au mois de janvier officiellement, décembre officieusement. Et il a déjà un parcours intéressant, puisqu'il y a des choses qui se passent, des articles, dans des blogs de Luc Melmont, par exemple, ou d'Evelyne Tran, par exemple,
oui.
Le Monde Libertaire et dans Théâtre au Vent. Et puis, Luc Melmont, c'est dans Culture et Chanson, qui tient un blog très intéressant sur la chanson, et c'est tout à fait bien que ça existe. Voilà.
Alors, donc, le titre, moi, j'aime beaucoup le titre, parce que entendre le temps qui pousse, je sais pas pourquoi, parce que je cherche pas à analyser, hein,
oui,
ce que
oui,
ça veut
oui,
dire,
oui.
Mais quand j'entends entendre le temps qui pousse, moi je le vois en train de pousser comme une plante, quoi.
oui, c'est alors, ça. On a l'image, oui, bien
alors,
sûr.
Finalement, souvent, quand on dit oh, le temps passe trop vite, oh, c'est déjà fini, oh, on n'a pas le temps, oh, il nous reste plus que ça. Et entendre le temps qui pousse, on a l'impression que ça va jamais arrêter.
On espère en tout cas, parce qu'autrement si ça s'arrêtait, c'est le temps qui pousse. On entend comme une musique un peu quand ça pousse, ça.
C'est un peu comme la pluie, un petit peu.
Voilà,
mais c'est... la pluie pas de façon péjorative.
Oui.
Enfin, moi j'aime bien et d'ailleurs je veux pas analyser.
Non, il y a une petite référence écolo dans l'air du temps en ce moment.
Mais
c'est surtout entendre le temps qui pousse, c'est-à-dire prendre le temps, tout simplement, être à l'écoute du temps qui passe, être à l'écoute du temps qui pousse.
Voilà. Alors, donc, tes chansons qu'on entend dans le disque,
oui.
On peut aussi les approcher par la lecture.
Oui, tout à fait.
Parce que tu as édité un recueil.
Alors, c'est pas moi qui l'ai édité, c'est aux éditions
Thierry
Sajat. Non, mais il faut le dire, parce que c'est pas un compte d'auteur. Hein. Donc,
non,
pour une fois, c'est
d'accord.
Un éditeur qui s'appelle Thierry Sajat qui m'a fait confiance et qui m'a demandé s'il pouvait publier un recueil. Donc, j'ai tout de suite pensé, dans la mesure où il y a 20 chansons et que le livret aurait été peut-être un peu trop onéreux pour moi. Du coup, j'ai pensé à faire un livret à part pour les textes des chansons. Voilà. Alors, il manque deux chansons dans ce recueil. Amie, vois-tu venir, qui a été écrite après l'apparition du recueil, et Sept fonds, à laquelle j'ai pensé après aussi. Donc, si on les veut, Amie, vois-tu venir est dans le livret du disque. Sept fonds n'est pas dans. S'il y en a qui veulent le texte, et bien qu'ils n'hésitent pas à me contacter à pascal.locuin@free.fr. Voilà, donc vous avez mon adresse. Si vous voulez acheter le disque ou avoir le livret ou avoir des textes, et bien je vous enverrai ça avec plaisir.
D'accord. Alors oui, je disais, moi j'ai commencé à lire les textes avant, voilà, avant de connaître les chansons. Enfin, oui, avant que ce soit oui, en chanson.
Oui.
Et je trouve que même en le lisant,
oui,
c'est pas... c'est une approche très très agréable, quoi. Moi j'ai bien aimé rien qu'en le lisant. C'est une autre approche par la chanson,
oui,
mais en le lisant, c'est...
Parce que des fois, il y a des auteurs ou même des textes, des fois, il y a des textes qu'on ne peut entendre que chanter parce qu'il y a certains textes, par exemple de Gainsbourg, si on les lit à plat, franchement, c'est pas... Enfin, pour moi, je
oui, 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 d'accord, tu vois d'accord, ce que je veux dire. D'accord. Oui,
oui, je voulais dire quelque chose parce que moi, ça correspond tout à fait. Vraiment, il y a que du hasard, hein. Bon, à l'histoire de mon recueil,
oui,
puisque effectivement je l'ai écrit il y a 45 ans, mais en fait il y a pas mal de textes qui s'y trouvent, qui ont été chantés par une chanteuse de rock qui avait arrêté depuis 15 ans de chanter, et donc à Marseille on a fait 3-4 concerts, on a fait 4 concerts, mais finalement je me suis rendu compte que il y avait un abîme entre la chanson et le poème. Alors évidemment, quand vous écoutez les chansons de Léo Ferré, ensuite vous êtes très content de les lire dans un recueil parce que le texte est magnifique. En revanche, quand on n'a pas affaire à des chanteurs ou à des chanteuses brillantissimes,
ouais,
qui arrivent, parce que là, c'est une question d'équilibre finalement, c'est une question de partage, ça ne doit pas être une rivalité, le mot et la musique.
Non, c'est un tout.
Alors, ça ne doit pas être une rivalité, mais en fait, il faut être extrêmement subtil pour arriver à une espèce de mariage. Et moi, riche de cette expérience assez malheureuse,
ouais,
qui a eu finalement un effet très positif, parce que du coup, je me suis dit, mais ces poèmes, son poème, ont été poèmes, son poème et le resteront. Hein. Donc, ils ne feront pas partie d'un tout dans une chanson, d'une partie d'une chanson, pardon. Et en fait, je pense que la manœuvre est délicate, la manœuvre est très très délicate de... ça dépend finalement, si on écrit... Moi j'ai toujours écrit des poèmes, je ne me suis jamais imaginé, c'était il y a 45 ans, qu'ils allaient devenir des chansons. En revanche, effectivement, si on pense d'abord à la chanson, effectivement, on écrit le texte, et finalement... On écrit le texte en se disant, tiens, on va l'accompagner,
oui,
par une musique.
Oui, la démarche, c'est pas
mais
forcément...
Mais je trouve qu'il y a quelque chose... Alors, je dirais pas rivalité, parce que le mot est fort et très, très péjoratif. Mais disons que...
une dualité.
Oui, voilà, tout à fait, une dualité. Donc, moi, je crois que c'est un travail d'orfèvre. C'est vraiment du cousu humain. Et cette très mauvaise expérience, puisque finalement... ça s'est avéré assez catastrophique avec le recul, cette histoire de concert. Et ben, je me suis dit, ben finalement, ben c'est dans un recueil qu'il ouais, faut que, voilà, que se trouvent ces textes. Mmh. Donc ça a été quand même une expérience qui m'a enrichie.
D'accord.
Et le poème est resté poème.
D'accord. Ouais, par contre, toi, Pascal,
oui,
tu es compositrice de musique.
J'ai fait des mélodies plus que de la composition musicale.
Des mélodies.
Voilà, je fais plus des mélodies, je suis plus mélodiste.
Donc, c'est la qu'est-ce qu'il vient avant, le texte ou la
alors
mélodie?
Ça dépend, parce qu'en fait, souvent j'écris le texte. Il y a eu une époque où je mettais le... où je faisais les deux en même temps, c'est arrivé. Ou des fois, j'arrivais, j'avais une mélodie, je mettais un texte dessus. C'est très variable. Il y a pas de règle en fait.
Il y a pas de règle.
Mais ces derniers temps, c'est vrai que j'écris plus les textes d'abord que le contraire. Voilà.
Voilà.
Avec une musique en tête, peut-être. Une
non, même pas, texte, même non pas. Non, même pas. Mmh. Non, ça vient après. Bien après, je laisse mûrir. Avant, je reprenais ma guitare tout de suite, mais comme généralement j'écris la nuit. Les voisins sont pas très contents. Une fois, il y a un voisin qui me dit, mais c'est vous qui jouez de la guitare à 2h du matin? Je suis vraiment désolé. Il fait non, vous inquiétez pas, vous m'avez bercé, c'était très bien.
Mais ce qui est bien justement, c'est que tu fais les deux, donc tu sais où tu en es.
Voilà, ouais.
Tandis que quand c'est deux personnes, deux personnalités,
c'est là où ça
commence à poser problème. Quoi. Mais effectivement, quand on fait les deux, c'est une autre histoire.
Donc, entendre le temps qui pousse. Donc, ben, moi, je trouve qu'il faut, il faut se procurer les deux. Hein, et
oui.
Le disque.
Ah, bah oui. Et oui. Le recueil. Il n'y en a presque plus des recueils parce qu'il n'y en avait que 100 d'édités. Donc,
bravo. Donc, entendre le temps qui pousse aux éditions
Thierry Saja. Ouais.
Et puis, on peut se procurer chez toi.
Voilà, c'est ça. Donc, je répète l'adresse, pascal.loquin@free.fr. Alors, Loquin, L-O-C-Q-U-I-N.
Voilà. Et le disque, alors, chez toi aussi.
Pareil, c'est les deux. C'est du travail d'artisanat, si tu veux. J'ai pas de distributeur, j'ai pas de producteur, j'ai pas d'éditeur. Je me débrouille toute seule et c'est pas plus mal. De toute façon, personne ne voudrait de moi, donc...
Oh non.
Merci, les amis.
Bien j'ai fait ça, c'est une coquetterie. Et
voilà. Mais c'est vrai, en plus, ils veulent pas de moi.
Donc, quand même, c'est un disque que tu as laissé pousser.
Oui, effectivement, ça a duré 2 ans et demi, la gestation.
C'est le sens de la répartie.
Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid, j'ai eu ma maman qui a des soucis de santé aussi, que je salue si elle m'écoute. Et donc, ça a été, c'est vrai, très long. On a fait beaucoup de corrections, des choses comme ça. Ça a été un gros travail de fourmi pour arriver à ce résultat-là. Et j'avoue, je suis un peu contente. Je n'aime pas les classements.
Ouais.
C'est vrai, je suis pas pour les classements, les premiers de la classe et tout ça, mais je participe à Réseau Cota, qui est un réseau qui fédère 22 radios en France, 22 radios associatives, qui défendent la chanson, qui soutiennent la chanson en tout cas. Et je suis dans les 35 premiers albums sont classés. Et j'ai été 11e le mois dernier, et ce mois-ci, je suis 8e, j'ai gagné 3 places. Alors peut-être le mois prochain, je vais disparaître, mais en tout cas, j'aurais fait un bon parcours quand même, parce que j'ai regardé dans le classement, dans le résultat, c'est qu'ils mettent les labels et tout ça, et en fait, on n'est que 2 autoproduits dans les 10 premiers.
Ah oui, c'est pas mal.
Donc c'est pas si
mal. C'est bien voilà. Même, hein. Bravo, hein.
Oui, enfin, ouais. Bon, c'est bien, mais c'est pas un but en soi non plus, mais ça aide un peu à y voir un peu plus clair, bon, malgré tout. Et puis, de toute façon, ça permet aussi de se faire connaître au-delà du classement, voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai fait.
De toute façon, si tu écris et si tu composes, c'est quand même pour communiquer, hein.
Oui, pour communiquer, donc, mais pas forcément pour être le premier de la classe, quoi.
C'est pas le problème, enfin, je veux dire, ça veut dire que ça passe sur les ondes.
Voilà, c'est ça,
De 25 radios.
22.
Bon. De radio.
Il y en a d'autres qui le passent aussi,
peut-être. radio libre, associative,
oui.
De province. Ce qui est pas mal. Et puis ça peut donner envie d'aller voir ce que c'est que ces radios, d'ailleurs.
Alors, il y a aussi un homme que j'ai envie de citer, c'est Jean-Michel Rozan, qui a une radio dans la Drôme, qui s'appelle. Je me suis oublié le nom de la radio, mais son émission s'appelle En français dans le texte, et il a réalisé une émission qui parlait en partie de moi et de Philippe Forcioli, donc j'étais en très bonne compagnie, et à la fin il a même fait un hommage à Marcel Amont qui venait de décéder. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits riens, des petits bouts de choses qui font qu'on a envie de continuer, parce qu'on est soutenu, on se sent soutenu.
Bah oui.
Et Radio Libertaire, bien entendu, en tête, ça c'est sûr, dans la mesure où déjà j'y travaille, moi aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'animateurs et de gens de la radio qui aiment ce que je fais. Déjà, c'est déjà un bon point.
Et si on passait un morceau, bordel ?
Ah bah voilà, bah non, oui,
alors, bordel. Moi, j'ai noté, hein, y en a que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le radeau des médusées, ça te botte, qu'est-ce que... Alors, il y en a une, Sept Fonds, mais ce sera la dernière.
Hein, d'accord, pas de
ça, problème. Ça, c'est un clin d'œil, parce qu'en fait, on s'est rencontrés à Sept Fonds.
Non, on s'est pas rencontrés à Sept Fonds.
Non, je sais bien.
Non. On peut raconter des salades.
Alors, laquelle
on a qu'à passer le radeau des Médusées, puisque tu l'aimes bien. Puis, allez, cette chanson est de circonstances en plus en ce moment. Ouais.
Partis de loin, sur des radeaux de fortune, ils rêvent en vain, allégés de leur thune, par des vauriens, des gens sans scrupules, ils n'ont plus rien, même pas un matricule. La terre promise,
Fabien, ça s'entend que t'es du Pas-de-Calais.
Même pas une valise, tout ça pour des prunes. À tout moment, la vie peut chavirer, ils jouent leur vie. À qui perd gagne, il y en a tant que la vie a débarqué. Et on dit que la foi déplace des montagnes. Partir de loin, arriver nulle part, pour quand enfin la fin du brouillard. Le monde ne veut pas de ces gens ailleurs, d'accord, mais pas ici. Aurait-il oublié qu'en d'autres temps certains avaient fui leur pays? Une guerre chasse l'autre, on n'en voit pas la fin. Dieu et ses apôtres, mais où sont passés les saints? De drôles d'idées qui traînent, se trompent de mission, des appels à la haine, déchaînent les passions. On peut rêver et croire enfin qu'un jour le monde va se lever et ne sera plus sourd. Je rêve du jour où le malheur tournera court. Je rêve du jour d'un autre jour. Je rêve d'un autre temps, d'un autre temps. Dites-le aux enfants.
Oui. Alors, c'était le radeau des Médusées.
Voilà, le radeau des Médusées.
Alors, je peux dire quand même que c'est Patrick Perdet qui signe les arrangements. Donc, il a fait un très gros travail. On a travaillé à deux les arrangements, mais c'est surtout lui qui a créé ces arrangements. Donc, je voulais lui rendre hommage et le remercier pour tout le beau travail qu'il a fait.
Ah oui, tout à fait. Oui, ouais. Tout à fait, oui. Mais ce sont des chansons, en fait, il faut les réécouter. Parce on redécouvre. Parce qu'il y a du texte quand même. Quand je dis qu'il y a du texte, c'est pas que des rimes. C'est oui, quand même. Hein, c'est, je veux dire. Je sais pas comment tu fais quand tu écris, mais je veux dire. C'est quelque chose qui vraiment qui te tient à cœur et il faut que tu.
C'est-à-dire qu'en fait, dans mes chansons, en général, il y a plusieurs lectures. Suivant le jour qu'on est, suivant le moment émotionnel dans lequel on se trouve, on peut interpréter la chanson différemment. Bien sûr, on ne fait pas de contresens flagrant non plus, il ne faut pas exagérer. Hein, on ne va pas arriver avec des opinions contraires, mais il y a quand même plusieurs lectures dans mes chansons.
Et plusieurs écoutes aussi.
Voilà, plusieurs écoutes aussi.
C'est-à-dire que. D'ailleurs, moi aussi, j'ai écouté plusieurs fois et j'ai pas chaque fois ressenti exactement la même chose.
Ah bah oui, c'est le pouvoir d'une chanson. Il n'y a pas que moi qui suis comme ça. Je pense que chaque chanson rencontre son quelqu'un différemment chaque fois, à chaque écoute. À mon avis, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, c'est ça. Oui. Il y en a d'autres. Alors il y a Ça te botte.
Oui. Là. Alors ça c'est sur la montée de l'extrême droite. Voilà. Donc c'est d'ailleurs quand je présente cette chanson, je dis partout dans le monde le bruit des bottes, ça te botte.
Ouais,
ça.
Celle-là,
c'est
quelle année la montée
de
l'extrême droite? C'est dans les années
80. Ça monte en puissance de toute façon depuis des années.
Hein, oui,
ça,
oui, c'est une droitisation
de notre société.
Oui. C'est-à-dire que, en fait, il y a des moments où il y a quand même il y a de la mélancolie de temps en temps. Enfin, je sens de la mélancolie.
Oui. Hein,
enfin, et beaucoup de tendresse aussi.
Ah oui. Enfin, j'espère que oui, parce que sinon, ce serait si c'était que je pleure misère et puis derrière il y a rien.
Non, parce que on sent qu'il y a la volonté de. Puis tu t'émerveilles aussi devant la c'est-à-dire que tu es partagé entre l'émerveillement parfois pour des choses simples hein,
oui.
Et en même temps tu es chaviré par le spectacle du monde qui ne va pas quoi.
Il y a
un peu de ça aussi.
Disons que je tire un peu un constat en essayant de mettre un peu de poésie malgré tout parce que je suis pas journaliste.
Ouais.
Mais bon c'est ma façon à moi d'exprimer ce que je ressens de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans ma vie aussi à moi personnellement. Mais c'est vrai, je fais rarement, des allusions à ma vie personnelle. Mais de temps en temps, parce que ça cerne un problème de société, parfois, je vais sur
ça
ce terrain.
Ça fait un tout, hein, voilà, de toute façon. Oui. Ce qui se passe autour de nous, et ce qui se passe aussi de point de vue personnel, ça fait partie aussi du quotidien, quoi. Je veux dire, bon, on entend qu'il se passe quelque chose en Ukraine ou ailleurs, même si on n'y est pas, ça nous touche quand même, hein. Enfin, je veux dire...
Oui, et en tant qu'artiste, d'autant plus que si on a la faculté de pouvoir exprimer ce qu'on ressent à travers une forme de langage, qu'elle soit la poésie ou autre chose, il faut y aller, quoi. Il faut pas hésiter, il faut partager ce qu'on a à dire et puis l'exprimer peut-être à sa façon, c'est tout. Voilà.
Ouais. En fait, il y a un point quand même entre l'écriture de Brigitte Bramy et toi, c'est que j'ai l'impression, en fait, vous suggérez, vous ne dites pas, vous faites pas un récit.
Voilà, on n'est pas des journalistes.
Mais bah, tu m'as pas lu, hein, faut pas dire.
Vous exprimez, c'est ça la poésie. C'est ça à quoi sert la poésie, c'est exprimer des choses qui quelque part. Est inexprimable simplement si on met un verbe, un complément, un sujet. C'est pas exact.
C'est écrit de façon élémentaire ou primaire.
Verbe, sujet, complément, je veux dire, c'est en ligne droite, quoi, dans la logique. La poésie, c'est pas de la logique, je suis désolée.
C'est pas la logique, c'est l'émotionnel, effectivement.
Ça, quelque part, dans le langage courant, c'est difficile à exprimer. Il faut prendre d'autres. D'autres chemins.
Oui, parce que moi je pense que la poésie est tout sauf volontariste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des métaphores. Les métaphores, qu'est-ce que c'est ? C'est des images poétiques, finalement. Hein. Les métaphores, c'est la métaphore, la définition, c'est une comparaison sans comme. Et c'est des fulgurances comme ça, émotionnelles. Et c'est des choses qui se passent et qui renvoient, quand tu parlais tout à l'heure, que quand on apprend qu'il y a la guerre en Ukraine, effectivement, on est ça nous fait quelque chose, hein, qu'on traduit en écriture ou dans une autre forme
artistique.
C'est-à-dire
qu'on ne peut pas rester complètement dans notre bulle.
Mais moi, je pense que ça révèle aussi nos guerres intérieures. Hein. Il y a comme ça une espèce de choc, hein, entre ce qui se passe à l'extérieur, hein, dans la réalité comme ça dite objective, et puis nos propres installations, notre propre échafaudage existentiel. Ce qui se passe, c'est que voilà, et de là, comme ça, c'est très complexe, c'est irrationnel, la poésie, évidemment. C'est quelque chose qui, pour moi, la définition, c'est profondément vivant. Et c'est quelque chose, tout à fait d'accord avec toi, Evelyne, qui n'est pas de l'ordre de la rationalité, hein, qui n'est pas de l'explicatif, qui n'est pas... On va pas raconter quelque chose, en fait. Excuse-moi, je n'ai pas terminé.
Oui, mais ça fait un moment.
Oui, mais c'est pas grave. Je dis phrase prussienne, il faut avoir de la patience dans la vie. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, en fait... Il y a un cheminement, mais un cheminement finalement qui est, pas ésotérique, mais moi-même, je ne comprends pas mes propres poèmes, par exemple.
Bah oui.
Mais bon.
J'ai pas la clé de certains poèmes.
Bah, quelque part, heureusement qu'on n'a pas forcément la clé, parce qu'on n'aurait plus de surprises, finalement. Comme ça, on peut se renouveler. Hein.
Je voulais dire que la poésie, c'est peut-être une forme de sublimation de la réalité.
Sûrement.
Bah, c'est ça,
sûrement.
Bah, c'est que ça, ouais.
C'est aussi. On parle beaucoup d'inconscient, oui. Mais je pense, évidemment, on le met à toutes les sauces, l'inconscient, mais je suis quelque part, je suis persuadée que pour écrire, il faut de temps en temps, on est guidé parfois on est guidé par son inconscient, c'est-à-dire que on se donne la liberté, ouais, d'écrire certaines choses que la raison
nous empêcherait de faire.
Oui, voilà. Et à un moment donné, c'est tellement fort qu'on se dit, bon, bah, je laisse.
Bah, tu sais, justement, je voulais parler de ça parce que tu sais, pour citer Anne Sylvestre, elle expliquait que quand elle a écrit Une sorcière comme les autres, elle l'a écrit sous la dictée. Elle était possédée pratiquement par ce qu'elle écrivait. Elle a pas vu passer la chanson, quoi. Et ça arrive souvent à beaucoup d'entre nous quand on écrit. On écrit et après on dit merde, j'ai écrit ça. Voilà, on sait pas.
On est le véhicule, finalement, le simple véhicule de l'écriture. On décide rien.
Ouais, c'est ça, oui. Oui, alors bon, on appelle ça l'inconscient. On l'appelle comme ça, puis après tout, c'est pas grave.
On l'appelle comme on veut, hein, mais en tout cas, le texte est écrit, en tout cas.
Alors, on va écouter. Ça te botte.
Ça te botte, voilà, ouais. Tout simplement.
Cette sensation étrange d'un air de déjà-vu, d'un air qui démange, ni vu ni connu. On entend au loin ce bruit nauséabond, des jours sans lendemain, des jours qui en disent long. Cette sensation étrange que je n'ai pas connue, qui moi me dérange, qui me gâche la vue. Le bruit se rapproche, ça fait froid dans le dos, pas les yeux dans les poches, rends-moi mon râteau. Comme des gosses qui jouent dans le bac à sable, qui se cherchent des poux, c'est vraiment incroyable. Tout à fait entre nous, c'est de la faute aux réfugiés, ce monde est vraiment fou, allez, laissez-moi rêver. Quelque part ailleurs ou ici, il reste les poètes qui disent la vie, mais aussi ses tempêtes. Ils disent l'amour et on veut y croire. Si demain était trop lourd, il resterait l'espoir.
Ah bon. Alors ça te botte, tu l'as écrite... par rapport à une phrase que tu avais entendue qui t'avait choqué, je me semble. C'est ce que tu dis hein, dans le texte. Ça te botte.
Oui, ça te botte, oui.
Et je sais plus, de mémoire, il était question de bac à sable.
Oui, bah, c'est-à-dire que c'est ça, on a l'impression qu'on est gouverné par des gens qui sont dans un bac à sable et qui se disputent leur pelle et leur râteau. Et c'est un peu l'image que j'ai voulu te donner dans cette chanson. Voilà. Donc ça aboutit à des guerres, forcément, parce qu'ils ne sont pas contents, on leur a piqué leur pelle. Hein. Donc ça aboutit à des guerres. Et c'est comme ça qu'on est gouverné dans le monde entier, hein, pas seulement en France. Hein. Attention, c'est général. Et tout ce qui se passe au niveau de la montée de l'extrême droite, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas seulement quelque chose qui regarde que la France.
Oui, tout à fait. Et moi, je trouve que c'est important de le dénoncer.
Oui, bah, c'est pour ça que j'ai trouvé que dans ce disque, elle était bienvenue, voilà, cette chanson. Malheureusement, parce que j'aurais préféré ne pas écrire cette chanson, bien entendu, ça, c'est sûr.
Ouais. Mais il y en a quand même pas mal hein, de chansons. Hein.
Alors, il y en a 20.
Ouais.
Il y a 20 chansons, alors c'est vrai qu'il y a 20 chansons, ça peut paraître long, mais finalement, le disque ne fait que 44 minutes.
Ouais.
Et elles sont parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très courtes, comme ça te botte, celle-là elle fait 1 minute 30, je crois, quelque chose comme ça.
Oui, j'ai même été un peu surprise, enfin, quand je me suis rendu compte que chacune des chansons est très courte finalement.
Oui, bah, c'est-à-dire que c'est pas une volonté pour passer en radio, parce qu'il y en a beaucoup qui font des chansons pour les calibrer pour la radio. Moi, à vrai dire, je m'en fous un peu, hein. Mais c'est surtout que j'ai exprimé ce que j'avais à dire. En ce nombre de mots, ce nombre de phrases. Et puis c'est tout. Parce qu'il y en a qui se délaient pendant des heures parce qu'ils ont trouvé une phrase géniale. Alors ça fait tout le long de la chanson. Non, moi j'ai pas besoin de ça. J'écris ma chanson, ce que j'ai à dire, et puis c'est tout. Ça va pas plus loin.
Et quand tu es en pleine création, est-ce que tu te souviens du moment où était venue l'inspiration?
Alors, c'est souvent la nuit, hein, à part quelques chansons que j'ai écrites la journée, mais c'est souvent la nuit, je me réveille, et des fois, je suis tellement fatiguée que je n'ai même pas la force de me lever. Alors, avant, j'allais sur mon bureau, j'ouvrais mon carnet, je prenais mon stylo, c'est vrai, et puis de plus en plus, je suis fatiguée, donc j'ai mon téléphone à côté, et je prends les notes, c'est dommage, mais parce que je regrette, parce que je préfère le contact avec le papier quand même, et le crayon et le papier, il n'y a rien de mieux. Mais c'est vrai que bon, bah là, maintenant je prends mon téléphone. D'ailleurs, les dernières chansons, elles sont là. Voilà.
Ah, d'accord. Donc c'est souvent en pleine nuit.
Oui, c'est souvent. Bah, je ne suis pas toute seule. Hein, on est beaucoup dans ce. Bah, on arrive à des fois à trouver des solutions à nos problèmes la nuit. Aussi, la nuit, c'est incroyable.
Tu te réveilles et tout à coup, il y a...
Des fois, je ne me réveille pas forcément, mais je suis déjà réveillée. Et d'un coup, j'ai une phrase qui me vient et puis je la note. Et puis, je pousse un peu plus loin et puis je vois si je peux continuer. Si ça ne va pas, je laisse tomber.
Ouais.
Parce que je ne veux pas forcer le destin. Je ne veux pas me forcer à écrire.
Ah ouais, d'accord.
Je veux pas écrire une chanson pour écrire une chanson. Si cette chanson n'arrive pas de façon fluide, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, hein, non.
Ouais, ouais.
Donc je préfère m'arrêter. Un jour peut-être je reprendrai, j'aurai une idée qui viendra, mais généralement quand c'est fini pour moi, voilà.
Ah oui, d'accord.
J'arrive pas.
D'accord. Et puis donc tu laisses reposer.
Voilà, voilà. J'écris, puis souvent la nuit, j'ai terminé ma chanson. Voilà, souvent, ça arrive qu'elle soit terminée. Là, j'en ai écrit 2-3 ces derniers temps. Voilà, donc...
Après, bon, bah, tu les...
Je les mets en musique. Alors avant, comme je l'expliquais, je prenais ma guitare et puis c'était, même si c'était à 2h du matin, mais là maintenant je ne fais plus...
Tu peux plus embêter les voisins.
Voilà, les pauvres voisins, ils n'ont pas mérité ça. Donc je préfère... du coup, je prends ma guitare soit le lendemain, mais comme je suis un peu fatiguée, avec l'âge, je préfère attendre un peu que ça vienne et puis je prends ma guitare et puis... J'essaye de trouver quelque chose. Mais enfin, ça devient de plus en plus difficile parce que je ne suis pas une très grande guitariste. Donc forcément, je suis un peu limitée au niveau des... Enfin, les accords, je maîtrise tous les accords majeurs et mineurs. Mais je veux dire, pas les septièmes. Enfin, quelques septièmes et des neuvièmes, ça, on s'en fiche. Mais enfin, tu vois, je n'ai pas un éventail très, très, très élargi.
Oui.
Donc forcément ça tourne autour des mêmes accords. Y a des périodes où j'ai c'est une suite d'accords et puis une autre période c'est une autre suite d'accords. Mais voilà, c'est ça, ça se fait comme ça quoi, tout simplement. Te dire d'où ça vient, comment ça va, j'en sais rien, je ne sais pas.
D'accord.
C'est l'inspiration.
C'est l'inspiration. Alors, il faut dire aussi que tu vas faire un concert. Là,
ah oui, Publico, oui, le samedi 17 juin à 16h à Publico, je présenterai Entendre le temps qui pousse, le disque qui présentera, le spectacle qui présentera le disque, en fait, voilà.
Ah oui. Bon, c'est une date à marquer.
Hein, une croix blanche.
Ah tiens, il y a un titre, Un temps de chien.
Oui.
C'est...
Alors ça, c'est une chanson un peu pas marrante, non, elle n'est pas marrante, il y a un peu d'humour, et c'est traité façon gigue-irlandaise. C'est un peu ce à quoi j'avais tenu, qu'a réussi à faire Patrick. Il y a beaucoup de chansons, il y a quelques chansons d'inspiration celtique, voire irlandaise. Donc c'est une période de ma vie qui était importante, parce que c'est mon adolescence, et quand j'avais 16-17 ans, c'était dans les années 70, et à cette époque-là, le folk était à la mode, c'est vrai. Et pour une fois, j'étais d'accord avec la mode, donc j'écoutais du folk, j'écoutais la chanson française, les musiques du monde, ce qu'on appelle maintenant les musiques du monde, hein, ou la world music. Mais si tu veux, c'est une petite allusion, une petite référence à mon adolescence. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup la musique irlandaise, la musique celtique en général, bretonne. Voilà, c'est un univers qui me correspond beaucoup. Quoi, alors, voilà.
Bon, on va peut-être l'entendre alors.
Ouais, si tu veux, d'accord. Ouais. Là, j'ai un temps de chien.
Eh, hey, dis donc, t'aurais pas vu le chien de ma chienne. Eh, hey, dis donc, il a encore fait des siennes. C'est de la faute, t'as pas de chance.
Si tu t'en es parti, si tu as pris des vacances, si tu n'as pas fait un pli, moi je regarde à gauche puis à droite, pas des deux côtés à la fois. Je l'aime un peu moins, mais ça ira pour cette fois. Allez viens, prends ma main. Comment ça tu ne veux pas? Ah on verra ça demain. Ah bon t'es comme ça? C'est de la faute à qui? Eh bien mal à qui ne profite jamais. Je te le dis mon ami, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Bon c'est l'heure d'y aller, mais où je ne sais pas. J'ai beau chercher, chercher, le cœur n'y est pas. J'entends loin le chien qui dort, ça pourrait rassurer. Surtout qu'il ronfle fort, il va tout emporter. La terre appelle à son secours, les enfants du monde entier. Il n'y aura pas d'autre recours que l'amour et sa moitié. Qu'à quelque part un chien, ma chienne, dis-lui d'être heureux, de ne plus faire des siennes. L'argent s'excuse du peu.
Radio Libertaire 89,4 MHz. Dis-moi Pascal, à la librairie du Monde Libertaire, t'auras pas le violon derrière, donc tu pourras la faire quand même celle-là?
Bien sûr, on va s'arranger. On va s'arranger, ben. Oui.
Tu pourras pas toutes les faire.
Ah mais... si, je les fais. Enfin, peut-être pas cette fond, mais enfin, j'ai pas encore pensé, mais en tout cas, si les chansons du 10 seront le 17 juin, si.
Ah d'accord.
Ah bah ça donnera pas le même effet, c'est sûr, hein, parce que moi j'ai pas
non,
une
mais
guitare.
Le live, c'est irremplaçable.
Voilà,
live, hein.
bien sûr. Mmh. Et d'ailleurs, comme je te disais, je voulais citer les musiciens du disque, les musiciennes et les musiciens. Jeanne-Marie Anglès au violon, qui était sur cette chanson et puis sur d'autres. Marianne Félix Pernet à la flûte traversière et Léo Varnet à l'accordéon, qui joue d'ailleurs dans cette fond d'ailleurs.
D'accord, voilà. D'accord. Ah ben ce que je propose, parce que pour vous faire on va trouver.
Oui, bien sûr.
Puis il y a Jean-Marie Blanche aussi, le truc.
Jean Genet, là.
Oui, c'est
très important.
Voilà. Je vais juste rajouter mon site, pascalloquin.com. Pardon, excusez-moi.
Pascalloquin.com.
Voilà, c'est tout. Voilà, j'en ai terminé.
Et si on a le temps, à la fin de l'émission, on passera cette fond, parce que j'aime bien cette fond. Voilà. Donc, alors, en transition, comment on va faire?
C'est Hélène Martin, Le condamné à mort, de Jean Genet.
D'accord.
Ça serait pas mal, comme ça, après, je peux...
Alors, ça, c'est Nicolas, hein, c'est l'affaire de Nicolas.
Pardon?
C'est Nicolas qui
Ah, pardon, excuse-moi, oui, je pensais que c'était un titre, là.
Non, Nicolas, c'est...
Comme ça, après, je pourrais parler de Jean Genet, de mon livre, voilà, de ce que vous voulez.
Les assassins du mur s'enveloppent d'aurore. Dans ma cellule ouverte aux champs et aux sapins, qui la berce accrochée à des cordages fins, noués par des marins que le clair matin dort, qui grava dans le plâtre une rose des vents, qui songe à ma maison du fond de sa Hongrie, quelle enfance s'est roulée sur ma paille pourrie. À l'instant du réveil d'amis se souvenant, divague ma folie, enfante pour ma joie, inconsolant enfer peuplé de beaux soldats, nu jusqu'à la ceinture et des frocs réséda, tire ses lourdes fleurs dont l'odeur me foudroie. Arrachons de ses doux les gestes les plus fous, des robes des enfants, invente des tortures, mutile la beauté, travaille les figures et donne la Guyane aux gars pour rendez-vous. Oh mon vieux Maroni, au Cayenne la douce, je vois les corps penchés de 15 à 20 fagots autour du minot blond qui fume les mégots crachés par les gardiens dans les fleurs et la mousse. La 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 la.
Un clope mouillé suffit à nous désoler tous. Dressé seul au-dessus des rigides fougères, le plus jeune est posé sur ses hanches légères, immobile, attendant d'être sacré l'époux. Et les vieux assassins se pressant pour le rite, accroupis dans le soir, tirent d'un bâton sec un peu de feu que vole l'actif, le petit mec, plus émouvant et pur qu'une émouvante bite. Le bandit le plus dur, dans ses muscles polis, se courbe de respect devant ce gamin frêle. Monte la lune au ciel, s'apaise une querelle. Bouge du drapeau noir les mystérieux plis.
Eh oui, le drapeau noir. Marc Augeret interprétant Jean Genet sur la musique d'Hélène Martin.
Oui, alors... oui, c'était pas du tout ça. C'est... En fait, moi, je voulais le condamné à mort de... chanté par Hélène Martin. Et bon, c'est pas exactement ça, mais bon. De toute façon, c'est du Genet. C'est ça qui est important. Et ça lui rend hommage. Moi, j'écris depuis le pays de l'intériorité, moi, en fait. C'est ça qui m'intéresse, quoi. De l'intériorité.
Alors, donc, ouvre-moi, poème oui. à crier. Mmh. Hein, dont tu l'as expliqué tout à l'heure, en fait, au départ, il y a une chanteuse qui les a chantés, hein, les textes, qui sont... et finalement, ça s'est pas trop bien passé. Et donc, tu as préféré les mettre les disposer en recueil.
Alors,
et peut-être les dire toi-même.
Alors, l'histoire. Alors, c'est un très gros raccourci. En fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire commence il y a au moins 45 ans, puisque là, j'ai presque 59 ans et que. Un des poèmes que vous retrouverez dans ce recueil a été écrit par moi à l'âge de 7 ans. Donc ça fait quand même, ça ne nous rajeunit pas. Et
il est intitulé, je crois, pour la mémoire de l'arc-en-ciel, hein, c'est ça.
C'est dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Bravo, l'arc-en-ciel. Merci Evelyne, t'as bien bossé le bouquin. Oui. Mais c'est exactement ça, merci.
D'accord.
Et ensuite, j'ai écrit ces poèmes entre 16 et 25 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme Jean Genet, qui, depuis sa cellule de prison, écrit un livre qui va devenir après Notre-Dame des Fleurs. Et moi, entre 16 et 25 ans, maintenant, quand j'écris, maintenant, je sais qu'il y a la possibilité... d'être publié. Donc, une partie de moi-même, se dit, voilà, ça va être un livre, ça va être un livre, un objet littéraire, un objet matériel, hein, tangible.
Ouais.
Mais quand j'ai écrit ces poèmes, entre 15 et 25 ans, on va dire, eh bien, j'écrivais ça, ces poèmes, de façon tout à fait gratuite. Et c'était presque une question de vie ou de mort, finalement.
Ouais.
Ce qui est très intéressant aussi dans ces poèmes que j'ai retrouvés, c'est que je me suis rendu compte quelques décennies plus tard que j'avais été victime d'une maltraitance familiale très violente, mais j'en avais jamais eu conscience. Or, ces poèmes portent comme ça l'empreinte de cette maltraitance.
Mmh.
Et il n'y a que ces poèmes qui ont parlé de ça, de ces traumatismes. Ensuite, effectivement, de déménagement en déménagement, j'ai conservé ce petit fascicule. C'était écrit à l'époque, c'était écrit carrément à la machine à écrire et non pas à l'ordinateur. C'était pas écrit sur
tu,
une
tu
page.
Tu commençais pas par les écrire à la main ?
Je commençais par écrire à la main, par les griffonner, effectivement, très très longtemps. C'était illisible. Même moi, je m'y retrouvais pas.
D'accord.
Et puis après, j'ai rationalisé ça dans un petit recueil que j'ai demandé à un professionnel de me mettre une spirale autour de ces pages, de les rassembler. Et ces poèmes à l'époque s'appelait À l'heure où les putains se couchent. Je sais pas si tu t'en souviens, Evelyne.
Si.
Voilà. En fait.
Bah, Tu les as écrits à l'heure où les putains se couchent, c'était dit comme ça, mais l'éditeur n'a pas voulu prendre ce titre, je crois.
C'est pas tout à fait. En fait, j'ai intitulé ce recueil à l'heure où les putains se couchent, et ce qui était important pour moi, c'était pas du tout le substantif putain, évidemment, mais c'était, je me demandais à l'époque, il y a 45 ans, je me disais, mais à quelle heure se couchent les putains ? Je me suis posé la question parce que je savais que telle ou telle profession rentrait, les fonctionnaires arrêtaient à 17h, etc.
Ce serait bien, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui, vas-y.
Ce serait bien que tu nous lises un de tes poèmes, hein, parce que je pense que tu as l'énergie.
Plusieurs.
Enfin, hein, si voilà. Et je voulais te demander une petite question comme ça.
Ouais, vas-y.
Donc, c'est des écrits que tu as écrits entre 16 et 25 ans, hein, plutôt vers la vingtaine, hein, hormis un qui, tu l'as écrit quand tu avais 7 ans, tu l'as mis dans le recueil. Avec le recul, puisque tu n'as plus 20 ans, avec le recul, comment tu ressens ces poèmes ?
C'est une très très bonne question. Et j'en parlais justement avec une personne... une de mes lectrices tout à l'heure. Mon éditeur dit de ce recueil et de ses poèmes que, en général, lui, ce qu'il a l'habitude de lire, il édite beaucoup de poésie, c'est les éditions Unicité. Il a l'habitude de lire des poèmes qui sont concentrés, finalement, qui sont mus par une recherche stylistique. C'est-à-dire que ce sont les mots qui ont le plus d'importance, et les auteurs s'amusent avec les mots, essayent assembler de façon la plus gracieuse et la plus originale possible.
Oui, merci.
Moi, il y a un critique littéraire qui m'a dit que mes poèmes étaient profondément humanistes et que finalement ils ont énormément de force. Alors quand je l'ai lu, évidemment il y a 45 ans de lecture, il y a 45 ans je me suis exercée pendant 45 ans, j'ai lu, j'ai fait des tas de choses, donc je suis plus du tout la même, en
D'accord.
vérité. Et alors, je trouve que ces poèmes sont extrêmement forts.
Ouais.
Alors, il y a pas tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai fait des études, je suis allée jusqu'en doctorat en littérature et civilisation française.
Tu n'irais pas jusqu'à dire c'est une autre personne qui les a écrits?
Alors, c'est toujours moi, mais disons, je serais incapable de les réécrire, je n'aurais pas cette force, parce qu'ils ont une force, je me suis amenuisée, j'ai perdu de ma force authentique, finalement, grâce à la littérature aussi, parce que ça sert à ça aussi, la littérature, ça sert aussi à transformer notre propre violence émotionnelle en mots, et finalement, nous calmer un petit peu, quoi. Mais effectivement, il y a une force que je ne pourrais pas retrouver. Je ne suis plus du tout dans la forme brève poétique. Je suis beaucoup plus dans des formes longues. Je suis actuellement assez incapable d'écrire des poèmes. En revanche, donc je pense qu'ils n'ont pas cette espèce de... Comment dirais-je ? Ils n'ont pas cette espèce de culture littéraire que j'ai pu acquérir. C'est-à-dire que si je devais les réécrire, je n'y ai pas touché, je les styliserai, je les cisaillerai, je ferai attention à des tas de choses auxquelles j'ai absolument pas fait attention quand je les ai écrites.
Mais telles quelles, ils existent. Hein, bon, voilà.
En revanche, ils ont une force dont je ne serais pas capable de faire montre aujourd'hui.
Mais tu peux les dire.
Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'aimerais bien savoir.
Il y en a qui j'ai trouvé. Effectivement, ça respire la jeunesse, la fougue de la jeunesse. C'est brut parfois. Tu
exprimes
les choses de façon très très brute et mais poétique aussi. Enfin, comment dire ? C'est fort. C'est un petit peu de violence. Enfin, mais violence. Dans le bon sens du terme, quoi. C'est
c'est ce que je viens de dire.
Voilà. Et puis, il y en a qui sont beaux. Oui, tu l'avais déjà dit d'ailleurs à la radio. Il y a Voleur de rêves, j'aime bien.
Ah oui,
page 49.
Il est très violent. Oui,
tu
ouais.
peux le redire.
Oui, bah, je vais en lire quelques-uns. Sinon, par rapport à le côté brut, effectivement, ils sont comme des diamants, finalement. Hein. Mmh. Comme des diamants, c'est-à-dire que des diamants qui n'ont pas été cisaillés. Et c'est aussi leur qualité. Hein. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que je ne les aurais jamais publiés si je n'avais pas rencontré un public au Festival de Sète.
Ouais.
Et si vraiment, les applaudissements... il faut savoir que dans ce festival, il est très empoulé, en fait. Il y a plein de poètes dans toutes les rues. Les artistes sont des personnes extraordinaires, mais profondément narcissiques. Donc, quand vous en mettez en fait dans un petit espace pas mal, ouais. donc après ça crée quelque chose de pas très
ça
sympathique.
Ça peut être un peu étouffant.
Voilà, c'est de vraiment pas sympathique.
Ouais.
Et donc, ce qui se passe, c'est que parce que voilà, et c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que le Festival de Sète, il y a un côté bourgeois, il y a un côté empoulé, il y a un côté, comme je disais tout à l'heure, on cisaille, on s'écoute parler, etc.
Ouais,
et
mais
c'est
bon.
Vrai, et c'est vrai que la violence de mes poèmes, qui était très authentique, ça a fait un peu bouger le
oui,
public, il s'est
sûr.
Passé quelque chose. Il y a eu comme ça... voilà, il s'est passé quelque chose parce qu'on... Vous savez, à 7, il y a carrément un événement qui s'appelle les poésies pendant la sieste. Enfin, ça veut dire tout ce que ça... Ça veut bien dire ce que ça veut dire, en fait. Bon. Et là, effectivement, mes poèmes ont réveillé un peu le public. Et là, je me suis dit, bah, ça serait dommage de passer à côté. Bon, j'avais fait cette tentative avec cette chanteuse. Moi, je pense que ça n'a pas donné grand chose, et donc je me suis dit bah pourquoi pas un recueil de poésie. Et puis mon éditeur,
alors on va dire où on peut se procurer
oui.
le
et puis je vais
le
dire
recueil
surtout, ouais.
Ouais. Je m'excuse Brigitte,
ah oui,
mais on est plusieurs, il y a...
Bah oui, mais c'est parce que normalement on devait se partager le temps, c'est pour ça.
Oui oui, mais
ouais. Alors on y va au lieu de voilà. Alors oui, je dis où
bah, Voleur de rêve, ouais.
Non, mais...
Ah oui, alors d'abord, tu dis oui. Où on peut se procurer le livre.
Donc, c'est Ouvre-moi...
Poème à crier. Aux éditions...
Donc, de Brigitte Bramy, aux éditions Unicité. Et puis, je vais en lire quelques-uns.
On en trouve à la librairie Publico.
Alors, on en trouve à la librairie Publico. On en trouve sur commande aux éditions Unicité. Donc, sur le site des éditions Unicité, et les frais sont offerts, en fait, les frais d'envoi. Il n'y a pas de frais d'envoi. Et puis, ben, on le trouve ben, sur commande dans toutes les librairies. Voilà. Donc, bon. Je fais vite. J'en lis quelques-uns, quand même, parce que là, ça fera que 10 minutes.
C'est-à-dire que...
Je pensais qu'on avait 20 minutes, en fait.
Ouais. Mais bah, ça fait. Ah oui, ouais. On a fait les 20 minutes. Hein.
Ah bon, c'est bon. Okay. Donc, en fait, c'est tellement intéressant que je ne vois pas les...
oui, mais non.
Le
non,
temps
mais
parce que... Allez, j'y vais. Bon. Honneur à la poésie. Puis c'est dommage, parce que je voulais quand même un petit peu parler de Jean Genet.
Bah, écoute, on va lire... Tu vas lire Voleur de rêve. Après, je vais...
Et Ouvre-moi aussi, parce que ça ouvre le poésie.
Oui.
Ils sont très courts, hein, tu vois.
Oui, d'accord.
Okay. Allez,
et,
on y va.
Et ensuite, on passera...
D'accord.
Jean-Marie.
Oui. D'accord. Bref. Allez. Ouvre-moi. Ouvre-moi. J'ai faim, j'ai froid. Il fait nuit. Il ne fait pas assez nuit. Il ne fait pas assez froid. Ouvre-moi tes bras, ouvre-moi tes jambes. Je crois qu'à l'heure qu'il est, ils tirent avec leurs mitraillettes sur les trottoirs des mots sans importance.
Il est page 49, Voleur de rêve.
Merci. Donc tu l'aimes bien?
Ouais.
Ok, j'y aurais pas pensé, hein, mais bon.
Ah bon? Que je l'aime, que j'aimerais...
Non, que... C'est vrai qu'il est... je suis d'accord avec toi, il est assez violent, en fait. Hein, c'est... voilà. Et d'ailleurs, je pense que Hélène avait dit que ça correspondait... En fait, oui, elle avait considéré que ce poème était extrêmement politique.
D'accord, on va l'entendre.
On y va. Voleur de rêves. Ils prennent mes pensées, les réduisent en poussière, qu'ils balayent peu après. Ils volent mes rêves, qu'ils balayent d'un sourire. Ils tiennent mes paroles dans le creux de ma main, les écrasent d'un seul coup. Ils connaissent mes idées, les noient dans leur breuvage.
qu'ils avalent aussitôt. Ils assassinent mes nuits, me tiennent éveillée à coups de souvenirs. Et moi, je reste plantée là, tout comme un légume qu'ils pourraient bien cueillir, à crier, toujours refuser, et pourtant ne rien faire, ne pas exister, et lentement mourir. Il faudrait que je dise un autre poème, parce que terminer par mourir, c'est pas très...
Alors, très court.
Ouais, très court, oui, oui. Alors, un poème un peu plus... peut-être un peu plus gai. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Ah voilà, ça y est. Il est positif cette fois-ci.
D'accord, d'accord.
Encore un. Encore un ? Pourquoi faire ? Pourquoi ? Encore un à chercher ? À faire taire le silence de la nuit moite ? Encore un à vouloir allumer le soleil pour qu'il réchauffe ton bol de café au lait ? Encore un à cueillir les lambeaux de ce passé si mal passé ? Encore un à rêver d'une autre vie, d'une autre foi, d'une autre histoire, d'un autre rêve ? Encore un à compter les regrets, les entasser les uns sur les autres ? Encore un qui ouvre ses grands yeux tout étonnés ? Encore un à numéroter, cataloguer, étiqueter, noter, mémoriser ? Rangé dans une petite boîte en acier. Encore un qui vient pour accoler nos petites vies en voie de disparition. Encore un tout tortillé qui commence à vivre lorsque tu voudrais mourir. Encore un à subir les tortures de ta plume. Encore un matin à désirer.
Très bien. Merci. Merci.
Terre, c'est un poème, une sorte de poème stellaire. Celui-là a été composé par Oscar Miloš et il m'a bien plu. La lune à la terre. Comme un petit matin se pose avec amour sur un beau front en proie à la mer pensée, permet que je caresse, ô ma sœur délaissée, ton visage attristé par la fuite du jour. Ce n'est point le soleil disparu que tu pleures. Il brûle seulement d'un éclat emprunté. Tu soupires, ma sœur, vers les hautes demeures de celui-là qui luit dans sa propre clarté. Comme toutes nos sœurs dans la nuit dispersée, nous cherchons le sentier qui saurait enfin conduire à ce suprême objet de nos pensées. Car nous devons un jour nous fondre dans le sein de celui qui saura des songes que nous fûmes refaire d'un seul mot une réalité, et de nos corps, longtemps dispersés dans les brumes, rétablir à jamais la mystique unité. Si, baigné dans les eaux, le reflet de ma face plaît aux yeux des songeurs et des initiés. Quel chant d'amour s'élève au profond de l'espace lorsque tu m'apparais au-dessus des glaciers. Ne lève point vers moi ton beau regard d'eau tendre, car en m'apercevant si pâle le de sommeil, tu t'imaginerais me voir là que la cendre et de ce qui tantôt la flamme du soleil. Imagine qu'un jour la parole de la terre te viendrait d'aussi loin que la faible chanson qu'on écoute à travers une porte de verre et qui ne passe pas le seuil de la maison. L'instant n'est point venu. Sur tes blanches rivières et tes lacs aimants, berceau des nymphéas, laisse encore dormir les brumeuses paupières. Ferme tes chastes fleurs, car je ne voudrais pas de tous ces yeux d'amour avant l'heure d'être vus. Non, je veux apparaître à l'horizon de juin, dans le rayonnement d'une gloire inconnue au miroir de tes mers, comme au regard humain. Oscar Miloche, merci.
Merci Jean-Marie. Et maintenant, ben, comme indiqué en début d'émission, c'est Sophie qui va prendre le relais avec, comme à chaque fois, un choix de quelques textes qu'elle a aimés ou qu'elle a écrits d'ailleurs. On va découvrir ça dans un tout petit instant. Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène magazine de créatures radiophoniques, et dans un quart d'heure, ça sera Bulle Noire ou Bulle de Rêve, tiens, je ne sais plus exactement.
Alors cette fois, j'arrive avec le thème du fantasme, ou la nostalgie, le fantasme amoureux. Donc je vais commencer par un texte que j'ai écrit il y a 6-7 ans, qui est très court. Quand je suis bien, quand je me sens bien, je trouve de la poésie partout. Un rancune chair est poétique, une psyché, un lustre, un porte-manteau. Ces objets que j'aimerais avoir, mais que je ne possède pas. L'idée de les avoir m'aide à vivre mieux, à être heureuse. Ils existent et moi aussi. Ainsi, des mots me font rêver, ces mots qui régissent nos vies, nos rêves, nos pensées, nos relations, nos moi. Les prénoms poétiques de mes amours passés dansent dans ma tête. Élise, Simon, Hugo, et aussi ceux qui ont existé, qui n'ont existé que dans mon imagination. Grégory, Hervé, Marwen. Parmi eux, tu sièges comme une poésie chérie, Marwen. Aucune histoire entre nous, seulement ce béguin très fort à en rêver. Et je pense à toi, à ton prénom, à ta musique, Marwen. Voilà. Je vais enchaîner avec un poème de Baudelaire que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle « À une passante », qui a été publié en 1855, et ensuite édité dans Les Fleurs du Mal dans la deuxième édition. C'est le poème numéro 93 de la section Tableau parisien. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. D'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans un œil, dans son œil, ciel livide, où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis. Tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé. Ô toi qui le savais. Je continue, peut-être que je passe la main.
Un dernier.
Un dernier.
Oui, t'as un petit.
Alors, je vais dire un. Il dure 2 minutes, oui, ça va aller. Un petit extrait du Grand Maulne, Damien Fournier. Bon, je passe la présentation, faute de temps. Au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve, il peut y avoir, assez distinctement dans la chambre éclairée par les lanternes vertes, le bohémien l'avait garni, des manteaux étaient accrochés au parterre. Sur une lourde table à toilette, au marbre brisé, on avait disposé de quoi transformer en muscadin tel garçon qui eut passé la nuit précédente dans une bergerie abandonnée. Il y avait, sur la cheminée, des allumettes auprès d'un grand flambeau. Mais on avait omis de cirer le parquet et Maulne sentit rouler sous ses souliers du sable et des gravats. De nouveau, il eut l'impression d'être dans une maison depuis longtemps abandonnée. En allant vers la cheminée, il faillit buter contre la pile de grands cartons et de petites boîtes. Il étendit le bras, alluma la bougie, puis souleva les couvercles et se pencha pour regarder. C'était des costumes de jeunes gens d'il y a longtemps, des redingotes à haut col de velours, de fins gilets très ouverts et d'interminables cravates blanches et des souliers vernis de début de siècle. Il n'osait rien toucher du bout des doigts, mais après s'être nettoyé en frissonnant, il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il releva le collet plissé, remplaça ses souliers ferrés par de fins escarpins vernis et se prépara à descendre nu-tête. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc c'était le grand Moulne qui arrive dans le château et va découvrir une jeune femme dont il va tomber éperdument amoureux et qui va essayer de retrouver pendant tout le livre.
D'accord, merci.
Merci.
Alors, Fabien, tu vas nous dire ce texte que tu as découvert dans le livre d'Isabelle Sprong.
Donc c'est un livre avec des petites nouvelles en fait. Donc que Isabelle a édité, enfin qui a été édité par le Lys Bleu. Voilà, donc c'est le texte que j'aime beaucoup, s'appelle Chagrin d'amitié. Pendant que je ne t'appelle pas, je vais voir les clowns. Pendant que je ne t'appelle pas, je regarde le clair de moon. J'appelle les copines qui se lèchent les babines. Je me maquille, je me déshabille, je babille, je tressaille, je me tartine les paupières. Je ne me sers pas de bière, je fais la sieste, j'astique les pastèques, je fais les courses, je délie ma bourse, j'épluche les patates, je m'en explose la rate. Je mange du chocolat et du tapioca, je joue du piano, do ré mi fa sol la si do, je caresse ma chatte, allez je t'appelle, non je t'appelle pas, allez je t'appelle, tu ne réponds pas.
Très bien. Alors pour finir, on va peut-être... cette fonte,
bah oui, bah je sais pas, c'est comme vous voulez, cher ami.
Bah, cette fonte, est-ce que c'est un clin d'œil au pays où je suis née,
voilà, et c'est mon village d'adoption
et
aussi.
C'est
à
le village
moi.
D'adoption de Pascal. Voilà. Cette fonte, ça veut dire cette fontaine. Hein.
C'est un petit village, là-bas dans le Quercy. Une belle image qu'on voudrait à Paris. Il y a des gens qui y sont de passage. Il y a aussi des gens qui y écrivent une page. C'est un drôle de pays, le pays du chapeau, où l'on fait son nid, il y fait souvent beau. Il y a les cafés et tous les commerçants, sans pourtant oublier qu'il y a les enfants. Ce pays, c'est cette fonte qui parle aujourd'hui encore, avec raison dans le fond, de pétronicante corps. Cette fonte, ces fontaines, ces bastides, ces dolmens et sa route nationale. Il faudrait lire le guide, ce ne serait pas plus mal. Alors rendez-vous, oui, rendez-vous là-bas. Venez donc chez nous, allez pourquoi pas, je vous dis à la prochaine, j'y suis tous les étés, et si on a de la veine, vous nous y rejoindrez.
Pascal Loquin, qui sera à la librairie du Monde Libertaire quand ?
Le samedi 17 juin à 16h. Voilà. Je vous attends.
Et là, ben, un petit carnet détachable en supplément.
Donc je vais lire une lettre, lettre à A. Moi, je voulais juste aimer simplement et me chamailler et monter aux arbres, faire des bras de fer, rencontrer ta mère, te présenter mes frères, jouer aux échecs, te montrer comment je prends mes orgasmes, te parler de mes victoires, te raconter mes exploits, tout ce à quoi j'ai échappé, te présenter mes amis, ma Lucie, mon armure, Camille, Marion, ma chère cousine, que tu me protèges. J'aurais voulu te faire aimer la danse, que tu prennes un kilo ou deux et que tu sois heureux, te faire rire aux éclats, que tu ne souffres plus, que tu partages avec moi tes frayeurs et tes échecs, mais que tu me dises à quel point tu es fière de t'être relevée, que tu aies des rapports plus aisés, plus apaisés avec tes parents. Je t'aurais aidée. Je t'aurais défendu. J'aurais voulu partir en vacances avec toi, que ce soit serein, peut-être même élever un enfant de toi que tu m'aurais fait. J'aurais voulu prendre toute la place.
Bon, allez, il faut le finir.
Te faire oublier ta souffrance, la souffrance de tes ruptures passées, t'aider à te pardonner, que tu pardonnes à tes ex aussi, celles qui t'ont laissé. J'aurais voulu tout recommencer. Je t'ai écrit aujourd'hui. Ne t'enfuis pas. J'ai peur que tu disparaisses. J'ai rêvé de toi. Tu étais chez moi. Tu avais pris la place de l'autre et du mort, mais tu es vivant pourtant. Dans un sursaut pour te faire revenir, je me dis que peut-être tu ne vaux pas le coup, que je pleure des rivières sur notre histoire avortée. Peut-être que tu m'aurais fait chier. Voilà, c'est tout.
Alors, on va terminer avec... toujours Pascal, hein?
Bah oui, je suis désolée, j'ai monopolisé la parole.
Ben voilà, exactement, hein. Tu seras puni. Allez, je plaisante. Non mais, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Ouais. Donc, l'être ou ne pas l'être.
D'accord, bon, c'est une note pas très gaie. Mais...
Alors, ben, si tu veux un plus gai, allez.
Non, non, l'être ou ne pas l'être, c'est très bien, elle finit bien finalement.
Alors, il est parti.
Il est parti. Je crois qu'on n'aura pas le temps. Il est 58. Hein. Sonnies, en tout cas...
Ah, mais si, il y en a des toutes petites. Tribulations.
Tribulations, celle-là est beaucoup plus courte. Elle est très bien, celle-là.
On a le temps. On a le temps pour tribulation. Tribulation, c'est une minute. Alors là, 36.
En tout cas, merci Evelyne et Nicolas pour votre invitation. Merci beaucoup.
Oh oui, puis moi, je suis stupide. Je t'ai interrompu pendant avec la bouteille de cidre.
Pas loin de la rivière, l'oiseau a fait son nid. Il ne sait pas ce qu'il perd quand il part loin d'ici. Il vole des jours et des jours vers des pays plus chauds. Il ne revient pas toujours, faites passer le mot. Il va au-delà des mers, ce n'est pas un poisson. Il perd un peu ses repères quand il boit le bouillon. Quand il redescend sur terre, il est déjà ailleurs. On se demande à quoi ça sert, si ce n'est pas pour du beurre. Pas loin de la rivière, mais pas trop près d'ici, l'oiseau prend un verre et me parle du pays. Il repartira un jour, peut-être demain, refaire le même parcours, ça on n'en sait rien. Il rencontrera l'amour, ou peut-être pas, on veut y croire toujours, etc., etc.
Radio Libertaire 89,4 MHz, il est 17h et ça va être... Ben, Mancho, père, tu vas être content, hein? C'est tout le tour d'Alexis avec Bulle de Rêve, hein? Allez, Radio Libertaire 89,4, Bulle de Rêve.